IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Radio.
La chronique juridique de Nada Boumefta.
C'est l'heure de rejoindre l'avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
Bonjour Vincent, on fit aujourd'hui en picoté.
Oui, léger picoté pour ceux qui nous voient sur les caméras en ce moment. Et Nada, t'as de la suite dans les idées parce qu'hier, j'avais une invitée qui nous parlait de chiens d'assistance, chiens de soutien pour des personnes qui ont des troubles de stress post-traumatique, donc de l'anxiété généralisée et tout ça. Et tu nous as mis la puce à l'oreille un peu sur le fait que dans les tribunaux, ça peut être utile pour certaines personnes d'avoir ce type de chien de soutien.
Absolument, et il faut croire que le message avait déjà été lancé puisque notre ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, hier, donc mardi dernier, a officiellement lancé une collaboration avec la Fondation Mira, donc des chiens d'accompagnement qui seront offerts officiellement dans certains districts là, comme projet pilote dès l'ouverture des tribunaux spécialisés qui ont été votés, rappelons-le, il y a un an de cela, en matière de violence conjugale et de crimes contre la personne en termes d'agression sexuelle. Donc, clairement, on voit que ça fait une différence. Certaines victimes pourront être accompagnées d'un chien en salle de cours lors des comparutions, lors des dates de cours. Puis aussi, surtout quand c'est un processus qui peut durer longtemps, un processus qui peut être stressant pour les victimes qui ont à se déplacer dans devant les tribunaux et parfois, en fait, être accompagnées également par le système là, qu'on appelle du CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est avec eux que ce lien-là sera fait et ces victimes-là auront bientôt la chance de pouvoir être accompagnées de petits animaux pleins d'amour.
Ouais, parce qu'on comprend que il y a des gens qui se retrouvent dans les tribunaux qui peuvent souffrir déjà d'anxiété, différentes problématiques, mais pour n'importe qui, ça représente des fois une énorme quantité de stress, de revenir sur des événements traumatiques. Donc, ça semble calmer les gens beaucoup et avoir un effet réel. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as des collègues qui ont vu l'effet de ça?
Ben, c'est sûr qu'on voit un effet direct. La zoothérapie, c'est quand même bon une science qui a été étudiée, qui continue à être étudiée et qui est appliquée. On le voit également auprès de jeunes enfants bon qui peuvent avoir des troubles de développement. Je le vois en DPJ, donc que ce soit en termes de situation d'autisme, par exemple, ou même de développement linguistique de l'enfant. Avoir un animal près de lui aide énormément, et comme tu l'as dit, à réduire l'anxiété. Donc, c'est sûr que quand on a, comme tu le dis, à témoigner ou même à être présent pour des raisons, des événements traumatiques comme des actes criminels qui ont été posés contre nous, ben c'est sûr et certain que ça apaise. Puis ça peut aider justement à rendre un meilleur témoignage, par exemple, à éviter les oublis, à permettre au plaignant ou à la victime là, qui est devant le tribunal d'être plus posé et de bien faire les choses. Maintenant, je voulais peut-être glisser un petit mot. J'ai un chien depuis la pandémie que j'essaye en tout cas de dresser au mieux. Et je vois la différence même avec la rencontre de mes clients dans le bureau. Elle m'assiste, elle est avec moi et ça calme beaucoup nos rencontres. Donc, les gens, quand elle est présente autour d'eux, juste la présence de l'animal autour des gens va souvent les calmer, les apaiser. Absolument, mais est-ce que dialogue beaucoup plus simple.
Mais est-ce que, Nada, parce que là, on comprend pour les salles de cours, mais on peut s'imaginer au moment, justement, d'un témoignage tout de suite après les faits, où on en a beaucoup parlé ensemble, l'importance de ce qu'on écrit et tout ça, où on peut être carrément encore paniqué. Est-ce qu'on peut utiliser ces animaux-là dans d'autres phases, disons, judiciaires, au début des événements ou ailleurs, qu'uniquement en salle de cours?
Oui, alors ça a débuté en fait ce projet-là avec un chien qui s'appelle Canuck, si je ne me trompe pas. Il était utilisé auprès des enfants pour les aider à témoigner et expliquer aux policiers finalement qu'est-ce qu'ils avaient vécu ou dans quelles circonstances ils avaient vécu certaines choses. Donc en flattant l'animal, en étant en présence de l'animal, l'enfant s'ouvrait beaucoup plus. Et ça m'amène peut-être à demander une ouverture ou de créer peut-être même ce programme-là au niveau de la DPJ. parce que souvent les enfants sont amenés à être présents en salle de cours puisque les travailleurs sociaux sont présents, les parents sont présents, il y a souvent pas de gardien et parfois même ce sont des enfants qui sont considérés être en âge de pouvoir témoigner devant le tribunal. Donc ils sont invités, ils sont présents avec nous. Je le vis souvent dans le Nord aussi à Coudjouac, là, toute la famille, toute la fratrie va être présente. Ça peut être stressant pour un enfant d'être en salle de cours, de voir des gens habillés en sac de poubelle noire, là, en toge, qui se promènent partout, des décisions qui sont prises, quelqu'un qui parle des parents et des problématiques de tes parents, des problématiques que toi, tu peux vivre, tes frères et sœurs peuvent vivre. Je pense que ça serait un beau milieu aussi où on pourrait développer ça, avoir une présence d'un animal pour apaiser les jeunes, mais surtout, et je vais mettre l'accent là-dessus, attirer leur attention sur autre chose, tu sais, que pour des jeunes, puis rappelons-le, en DPJ, hein, c'est de bébé jusqu'à l'âge de 17 ans, que les dates de cours soient plus associées à la présence de l'animal plutôt qu'à des moments peut-être qui peuvent être traumatisants ou stressants pour les jeunes.
Nada, quand un détenu arrive à sa demande de remise en liberté, ça ne veut pas dire que ça va lui être donné. Et on comprend que l'absence de remords dans un cas là, d'un proxénète l'empêche d'avoir cette remise en liberté-là.
Définitivement, c'est un cas dont je voulais parler aujourd'hui pour d'abord montrer à tous et à toutes là, que ce n'est pas automatique, comme tu le dis. C'est une possibilité de demande de remise en liberté devant la commission et la commission va trancher finalement en fonction du plan qui sera présenté par l'individu, mais aussi d'expertises qui seront présentées devant la commission. Il a entre autres été évalué au niveau sexuel, qu'en était-il, mais au niveau aussi des faits, qu'est-ce qu'il admettait. Après ce temps de détention-là, des gestes qu'il avait posés, avait-il par exemple des remords? Est-ce qu'il était conscient de l'impact qu'il a eu sur les victimes qu'il a causées? Rappelons que être proxénète, c'est finalement avoir un contrôle. Ici, dans ce cas-ci, c'était deux femmes. Les contrôler et avoir finalement gain pécunier de services d'échange sexuel. Mais on comprend qu'il les séquestrait également et même qu'il aurait été violent envers elles. Donc, un niveau de gravité, Vincent, quand même assez élevé. Et donc, devant la commission, il faut quand même arriver avec un bon plan, mais aussi avoir une évolution de cet individu-là, de sa personne, voir s'il a cheminé personnellement, puisque ce sera tenu en compte, entre autres, sur le risque de récidive. Une fois qu'on le remet en liberté, là, bon, c'est sûr qu'il sera pas libre comme l'air. Comme je vous disais dans d'autres chroniques, on parle de maisons de transition, on parle de suivis qui peuvent être imposés, également des conditions comme des suivis psychologiques, des rencontres, par exemple, avec des gens qui auraient été violents dans le passé pour travailler sur ces problématiques-là. Mais dans son cas, lui, il n'y a même aucune reconnaissance de ça. Et c'est pourquoi la commission lui a refusé sa remise en liberté.
Quand pourra-t-il réessayer? Je suppose que là, s'il fait juste dire « Ah oui, là, je me sens bien mal parce qu'on lui a conseillé de dire ça », ça fonctionne pas nécessairement.
Bon point, Vincent. Effectivement, là, il pourra pas juste retourner sa chemise une fois qu'il a entendu la décision de la commission pour dire « Ah, ben finalement, j'ai dormi là-dessus. Ouais. » Puis mon avocate m'a conseillé d'écrire une lettre d'excuse. C'est sûr qu'il y a des questions qui seront posées. Puis encore une fois, comme je le mentionne, c'est rarement basé que sur des paroles, que ce soit d'une part ou de l'autre, des positions qui seront présentées devant la commission. Souvent, il y a des experts qui vont évaluer le tout. Donc, on peut comptabiliser, entre autres, les délais d'une nouvelle expertise, par exemple, ou les délais de nouvelles démarches concrètes qu'il peut avoir ou prendre. Et là, dépendamment du centre de détention où il est, il peut avoir accès à des ressources et des services, même étant détenu, d'ailleurs, qui sont fortement encouragés par mes collègues en carcéral pour voir une évolution d'un individu qui cherche à être remis en liberté.
Un mot en terminant, Nada, sur un projet de loi C-28 qui a pour but de réagir à une décision de la Cour suprême qui a fait grand bruit concernant l'intoxication volontaire extrême. Sur le fait, est-ce qu'on peut...
En fait, je sais pas, Vincent, je t'interromps, mais je sais pas si tu voulais qu'on parle de l'affaire Jérémy et Gabriel, peut-être, avant, puis on peut laisser ce sujet-là à demain, c'est comme tu veux.
Parfait, parce qu'effectivement, le temps file. Parlons de ça, nouvelle de dernière heure concernant ce dossier de Jérémy Gabriel contre Mike Ward. Qui se poursuit.
Puis je pense que c'est important d'en parler quand même parce que d'abord, ça touche tout le monde. Tout le monde a suivi cette saga-là qui se poursuit. Pourtant, une décision de la Cour suprême a été rendue en faveur donc de Mike Ward. Mais la décision qui a été rendue, Vincent, n'était pas sur le fond de l'affaire en donnant ou pas raison à Jérémy Gabriel, mais plutôt d'expliquer et de dire que le recours que Jérémy Gabriel a entamé contre Mike Ward n'était pas le bon véhicule judiciaire. Donc, lui a décidé d'y aller au niveau de la discrimination, alors que selon la Cour suprême, il aurait dû prendre le véhicule judiciaire de la diffamation. Et là, toute la question juridique est réouverte finalement, et l'équipe de justicier, disons-le comme ça, de la famille de Jérémy Gabriel peuvent réouvrir cette porte-là et se questionner si d'abord ils peuvent entamer des démarches en diffamation maintenant contre Mike Ward, sachant que c'est la voie que la Cour suprême leur a donnée comme option, en fait réaliste, pour avoir un résultat en dommages et intérêts. Mais là, toute la question de prescription, c'est-à-dire de délai qu'on a comme justiciable pour poursuivre quelqu'un suite à un dommage que cette personne-là nous aurait causé, ben tout ça, c'est codifié au sens du code civil. Et normalement, c'est-à-dire qu'on peut pas se réveiller dans 10 ans puis dire ouais. « Ah, moi, Vincent, il m'a fait une joke contre moi. »
Donc, on arrive dans les limites, là.
Ben, en fait, on aurait même dépassé les limites. Rappelons que ça fait à peu près plus de 7 ans, selon le code civil, pour ce qui est des dommages qu'on peut poursuivre des gens pour des raisons pécuniaires. Normalement, c'est une prescription de 3 ans, mais il y a une exception en diffamation, c'est 1 an. Donc, 1 an de la connaissance des propos diffamatoires, et c'est là où le débat va probablement se tenir, à savoir à quel moment les parents de Jérémy Gabriel, au moment où il était mineur, donc c'est eux qui ont pris connaissance. Et d'ailleurs, la mère a aussi voulu poursuivre Mike Ward en son propre nom à elle. À quel moment ils ont eu connaissance de ça pour poursuivre? Et là, l'autre exception, sous-exception qui peut rentrer dans cette histoire-là, c'est le fait que la Cour suprême a ouvert un droit finalement à de poursuivre d'une autre façon. Est-ce que ça a suspendu ce 1 an dans les airs? Est-ce que ça permet à la famille de quand même poursuivre en diffamation? Alors, tout le débat va se tenir sur cet élément-là à suivre, et on verra ce que les tribunaux vont trancher là-dessus. Ce sera très intéressant.
Toute une très longue saga. Merci beaucoup, Nada. À demain.
Merci, à demain.
Salut.